Monsieur le substitut, nous avons discuté pendant 2 heures. Non pas que mon offre l'indigna, je ne l'aurais pas risqué si je n'avais connu mon adversaire, mais il voulait davantage, et il discuta âprement, tout en évitant de prononcer le nom de Madame de Gorn, à qui, moi-même, je n'avais pas fait une seule allusion. Nous avions l'air de 2 individus qui, à propos d'un litige quelconque, cherchent une transaction, un terrain où ils puissent s'entendre, alors qu'il s'agissait de la destinée même et du bonheur d'une femme. Enfin, de guerre lasse, j'acceptai un compromis, et nous arrivâmes à un accord que je voulus aussitôt rendre définitif. 2 lettres furent échangées entre nous. L'une par laquelle il me cédait le manoir au puits, contre la somme versée, l'autre qu'il empocha aussitôt, et par laquelle je devais lui envoyer en Amérique une somme égale le jour où le divorce serait prononcé. L'affaire était donc conclue. Je suis sûr qu'à ce moment, il acceptait de bonne foi. Il me considérait moins comme un ennemi et comme un rival que comme un monsieur qui vous rend service. Et il alla même, afin que je puisse rentrer chez moi directement, jusqu'à me donner la clé qui ouvre la petite porte de la campagne. Par malheur, tandis que je prenais ma casquette et mon manteau, j'eus le tort de laisser sur la table la lettre de vente signée par lui. En 1 seconde, Mathias de Gorn vit le parti qu'il pourrait tirer de mon oubli. Garder sa propriété, garder sa femme et garder l'argent. Prestement, il escamota la feuille, m'asséna sur la tête un coup de crosse, jeta son fusil et m'étreignit à la gorge de ses 2 mains. Mauvais calcul. Plus fort que lui, après une lutte assez vive qui dura peu, je le maîtrisai et l'attachai avec une corde qui traînait dans un coin. Monsieur le substitut, si la décision de mon adversaire avait été brusque, la mienne ne fut pas moins rapide. Puisque, somme toute, il avait accepté le marché, je l'obligerai à tenir ses engagements, du moins dans la mesure où j'y étais intéressé. En quelques bonds, je montai jusqu'au 1er étage. Je ne doutais point que Madame de Gorn ne fût là et qu'elle n'eût entendu le bruit de nos discussions. Éclairé par une lampe de poche, je visitai 3 chambres. La 4e était fermée à clé. Je frappai, aucune réponse. Mais je me trouvai à l'un de ces moments où nul obstacle ne vous arrête. Dans l'une des chambres, j'avais aperçu un marteau. Je le ramassai et démolis la porte. Nathalie de Gorn était là, en effet, couchée à terre, évanouie. Je la pris dans mes bras, redescendis et passai par la cuisine. Dehors, en voyant la neige, je songeais bien que mes traces seraient faciles à suivre. Mais qu'importait ? Avais-je à dépister Mathias de Gorn ? Nullement. Maître des 60 000 francs, maître du papier où je m'engageais à lui verser une somme égale le jour du divorce, maître de son domaine, il s'en irait, me laissant Nathalie de Gorn. Rien n'était changé entre nous, sauf une chose. Au lieu d'attendre son bon plaisir, j'avais saisi tout de suite le gage précieux que je convoitais. Ce n'était donc pas un retour offensif de Mathias de Gorn que je redoutais, mais bien plutôt les reproches et l'indignation de Nathalie de Gorn. Que dirait-elle une fois captive ? Les raisons pour lesquelles je n'eus point de reproches, monsieur le substitut, Madame de Gorn, je crois, a eu la franchise de vous les dire. L'amour appelle l'amour. Chez moi, cette nuit, brisée par l'émotion, elle m'a fait l'aveu de ses sentiments. Elle m'aimait comme je l'aimais. Nos destinées se confondaient. Elle et moi, nous partîmes ce matin à 5 heures, sans prévoir un instant que la justice pouvait nous demander des comptes. Le récit de Jérôme Vignal était fini. Il l'avait débité tout d'un trait, comme un récit appris par cœur et auquel rien ne peut être changé. Il y eut un instant de répit. Dans le réduit où il se cachait, Hortense et Rénine n'avaient pas perdu une seule des paroles prononcées. La jeune femme murmura « Tout cela est fort possible et en tout cas très logique. Restent les objections. Écoutez-les, elles sont redoutables. Il y en a une surtout. Celle-ci, le substitut du procureur la formula dès l'abord. « Et monsieur de Gorne dans tout cela ?»«
Mathias de Gorne ?»«
Oui, vous m'avez raconté avec un grand accent de sincérité une suite de faits que je suis tout disposé à admettre. Malheureusement, vous oubliez un point d'une importance capitale. Qu'est devenu Mathias de Gorne ? Vous l'avez attaché dans cette pièce. Or, ce matin, il n'y était pas dans cette pièce. »
Naturellement, monsieur le substitut. Mathias de Gorne, acceptant en fin de compte le marché, s'en est allé.
Par où ?
Sans doute par le chemin qui conduit chez son père.
Où sont les empreintes de ses pas ? Cette nappe de neige qui nous entoure est un témoin impartial. Après votre duel avec lui, on vous voit sur la neige vous éloigner. Pourquoi ne le voit-on pas, lui ? Il est venu et il n'est pas reparti. Où se trouve-t-il ? Aucune trace. Ou plutôt, si. Quelques traces sur le chemin du puits et autour du puits. Quelques traces qui prouvent que la lutte suprême a eu lieu là. Et après, rien. Plus rien.
Jérôme haussa les épaules. « Vous m'avez déjà parlé de cela, monsieur le substitut, et cela, c'est une accusation de meurtre contre moi. Je n'y répondrai point. »«
Mais répondrez-vous sur le fait qu'on a ramassé votre revolver à 20 mètres du puits ?»«
Pas davantage. »«
Et sur l'étrange coïncidence de ces 3 coups de feu entendus dans la nuit et de ces 3 balles qui manquent à votre revolver ?»
Non, monsieur le substitut, il n'y a pas eu, comme vous le croyez, de lutte suprême auprès du puits, puisque j'ai laissé monsieur de Gorne attaché dans cette pièce, et que j'ai laissé également mon revolver. Et d'autre part, si l'on a entendu des coups de feu, ils ne furent pas tirés par moi.
Coïncidence fortuite, alors ?
C'est à la justice de les expliquer. Mon unique devoir est de dire la vérité. Et vous n'avez pas le droit de m'en demander davantage.
Si cette vérité est contraire aux faits observés ?
C'est que les faits ont tort, monsieur le substitut.
Soit. Mais jusqu'au jour où la justice pourra les mettre d'accord avec vos assertions, vous comprendrez l'obligation où je suis de vous garder à la disposition du parquet.
Et madame de Gorne ?
Le substitut ne répondit pas. Il s'entretint avec le commissaire, puis avec un des agents auxquels il donna l'ordre de faire avancer une des 2 automobiles. Ensuite, il se tourna vers Nathalie.
« Madame, vous avez entendu la déposition de monsieur Vignal. Elle concorde absolument avec la vôtre. En particulier, monsieur Vignal affirme que vous étiez évanoui quand il vous a emporté. » Mais cet évanouissement a-t-il persisté durant le trajet ?
On eût dit que le sang-froid de Jérôme avait encore affermi l'assurance de la jeune femme. Elle répliqua :
Je ne me suis réveillée qu'au château, monsieur.
C'est bien extraordinaire. Vous n'avez pas entendu les 3 détonations que presque tout le village a entendues ?
Je ne les ai pas entendues.
Et vous n'avez rien vu de ce qui s'est passé près du puits ?
Il ne s'est rien passé, puisque Jérôme Vignal l'affirme.
Alors qu'est devenu votre mari ?
Je l'ignore.
Voyons, madame, vous devriez pourtant aider la justice et nous faire part, tout au moins, de vos suppositions. Croyez-vous qu'il y ait eu accident et que monsieur de Gorne, qui avait vu son père et qui avait bu plus que de coutume, et pu perdre l'équilibre et tomber dans le puits.
Quand mon mari est rentré de chez son père, il n'était nullement en état d'ivresse.
Son père l'a déclaré, cependant. Son père et lui avaient bu 2 ou 3 bouteilles de vin.
Son père se trompe.
Mais la neige ne se trompe pas, madame. Or, les traces de pas sont toutes sinueuses.
Mon mari est rentré à 8h30, avant la chute de la neige.
Le substitut frappa du poing.
Mais enfin, madame, vous parlez contre l'évidence même. Cette nappe de neige est impartiale.
Que vous soyez en contradiction avec ce qui ne peut pas être contrôlé, je l'admets. Mais cela, des pas dans la neige, dans la neige !»
Il se contint. L'automobile arrivait devant les fenêtres. Prenant une décision brusque, il dit à Nathalie
« Vous voudrez bien vous tenir à la disposition de la justice, madame, et attendre dans ce manoir. »
Et il fit signe au brigadier d'emmener Jérôme Vignal dans l'automobile. La partie était perdue pour les deux amants. À peine réunis, ils devaient se séparer et se débattre loin l'un de l'autre contre les accusations les plus troublantes. Jérôme s'avança d'un pas vers Nathalie. Ils échangèrent un long regard douloureux. Puis il s'inclina devant elle et se dirigea vers la sortie, à la suite du brigadier de gendarmerie.
« Halte ! Demi-tour, brigadier ! Jérôme Vignal, pas un mouvement !»
Interloqué, le substitut leva la tête ainsi que les autres personnages. La voix venait du haut de la salle. L'œil de bœuf s'était ouvert et Rénine, penchée par là, gesticulait.
« Je désire que l'on m'entende. J'ai plusieurs remarques à faire. Une surtout, à propos de la sinuosité des traces. Tout est là. Mathias n'avait pas bu. »
Il s'était retourné et avait passé les deux jambes par l'ouverture, tout en disant à Hortense qui, stupéfaite, essayait de le retenir « Ne bougez pas, cher ami. Il n'y a aucune raison pour qu'on vienne vous déranger. » Et lâchant les mains, il se laissa tomber dans la salle. Le substitut semblait ahuri.
« Mais enfin, monsieur, d'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? »
Rénine brossa ses vêtements maculés de poussière et répondit « Excusez-moi, monsieur le substitut, j'aurais dû prendre le chemin de tout le monde, mais j'étais pressé. En outre, si j'étais entré par la porte au lieu de tomber du plafond, mes paroles auraient produit moins d'effet. » Le substitut s'approcha, furieux.
« Qui êtes-vous ?